La vie de l'embryon doit être respectée au nom du droit inviolable de tout être humain innocent à la vie. Stéphane Bozon, comment les nouvelles techniques biomédicales peuvent-elles mettre en cause le respect de cet embryon humain ?
L'embryon, c'est quoi ? L'embryon, c'est l'enfant qui n'est pas encore né, c'est l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. On pourrait penser qu'il est protégé par sa mère. Eh bien, il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas ? Il ne l'est pas parce que sa mère a beaucoup de projets pour lui. Qu'il ait des yeux bleus. Avant, c'était un souhait. Maintenant, on peut le faire. Ou alors, qu'il n'ait pas de papa. Avant, c'était plus difficile. Maintenant, on peut le faire, voire elle peut le faire toute seule, ce qu'on appelle le clonage. Alors, cette maman, bien entendu, elle mérite tout notre amour, et elle a tout l'amour qu'elle veut pour l'enfant. Mais est-ce qu'on parle d'amour ou d'affection ? Et la technique, c'est le moyen pour résoudre nos problèmes d'affection.
Vous, Stéphane Bozon, vous êtes marié, vous avez
Oui.
3 enfants, vous avez peut-être été confronté à ces problèmes liés à la vie, au respect. Dites-nous un peu, votre parcours, il a commencé à partir de votre histoire d'amour ?
Je crois quand même que les enfants, ça change beaucoup. Donner la vie, c'est commencer aussi véritablement, dans un sens, à finir sa vie, parce qu'on sait qu'on va devoir ne plus être le plus petit. Tout d'un coup, on a des plus petits devant soi. Et ces plus petits, on veut les aider. Mais parfois, en voulant les aider, on les dirige, on les programme. Et on sait que pour les programmer, il nous faut des moyens, il nous faut de l'argent pour leur payer une école privée. Mais si aussi on peut techniquement faire des choses, si on a un enfant malade, on ferait tout pour le sauver. Et est-ce qu'on ferait éventuellement un petit frère à cet enfant malade, atteint d'une maladie génétique, une maladie rare, faire ce qu'on appelle un bébé médicament ? Est-ce qu'on peut se dire « j'aime tellement mon enfant », mais quel père, quelle mère ne se dirait pas « je suis prêt à tout pour que mon enfant vive ». Seulement, à un moment donné, c'est pas que moi, en tant que père, ça, je m'en suis aperçu. Il suffit de voir les difficultés qu'on a parfois avec les profs. Ils comprennent pas que mon enfant, il est génial. Non, parce qu'à un moment donné, si on les met à l'école, c'est parce que justement, il y a la société. Parce qu'il y a le vivre ensemble. Il y a le fait qu'on n'est pas seulement toi, moi, lui, mais on est tous ceux qui sont ensemble aujourd'hui, et puis qui seront là demain. Et on ne doit pas oublier ce qu'il y avait hier, ce qu'on appelle éventuellement la culture. Et ça, c'est difficile, parce qu'on les aime tellement, nos petits chéris, nos petites têtes blondes. Et pour moi, ça a été dur, j'avoue, de ne pas vouloir tout le temps les programmer. Et je comprends aussi qu'on veuille les programmer par la technique, quand il y a des cas de santé.
Alors, est-ce que c'est ce souci qui a été à l'origine de ce titre, la personne biojuridique ?
Bon, c'est un peu une provocation, mais ça on va dire que c'est pour mieux vendre le livre. Les juristes verront la personne juridique, la déclaration d'impôt. On déteste être un numéro, vous avez remarqué qu'on paye, on est tout le temps un numéro quand il faut payer. Bio, c'était pour dire, non attendez, vous existez, vous êtes là, vous vibrez avec votre sang, votre vie elle a un sens. Et il y a le droit qui est là, qui vous encadre, qui vous tutelle, qui serait censé vous dire le bien du mauvais.
Et puis il y a la personne.
Et puis il y a la personne, et la personne avec ses doutes, et la personne qui est l'opposé de la chose, la personne qui a sa dignité.
Alors justement, c'est ça Stéphane Bozon que vous essayez d'ouvrir. La personne n'est pas une chose, la personne n'est pas simplement quelque chose qu'on manipule, qu'on améliore, comme si on était derrière un ordinateur.
L'ordinateur est un exemple parfait. On sait tous aujourd'hui comme on peut même manipuler par l'ordinateur des photos et tout ce qu'on voudra.
Pourquoi est-ce qu'on prend la vie humaine pour une chose ?
Parce qu'il y a des intérêts économiques qui peuvent être des bonnes choses, mais qui peuvent être aussi des mauvaises choses, dans la mesure où il y a tellement d'argent en jeu qu'on peut penser nous soigner tous d'Alzheimer.
Est-ce que, finalement, quand vous parlez d'intérêt, vous opposez intérêt propre au bien commun ?
C'est surtout des promesses qui sont faites, que la science nous tient. Mais ce sont
alors,
des promesses.
Quelles sont les promesses que la science nous tient ?
On l'a tous vu dans les journaux. Tous les jours, on a découvert le gène de l'imbécilité. Qu'est-ce qu'on aimerait faire en sorte que nos enfants, dès la naissance, on fasse un test pré-génétique et qu'on leur enlève ce gène et que personne soit imbécile ? Ou le gène de la vieillesse, ou le gène de la méchanceté ? C'est cette espèce de promesse qui est fausse. Je vous le dis tout de suite, génétiquement, c'est faux. Mais néanmoins, on prend cela pour essayer demain d'amener des solutions. Et c'est très bien d'amener des solutions.
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme ou d'une femme quand il veut chosifier la vie ?
Eh bien, aujourd'hui, il veut chosifier l'embryon quand il dit... Après tout, si ça peut être un intérêt médical, type ne plus avoir le problème d'Alzheimer, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des recherches sur les embryons ? Parce que l'embryon, c'est quelque chose, diront certains, c'est un amas de cellules, diront d'autres, mais certainement pas une personne. C'est vrai que notre code civil le dit, en France ou en Italie. On n'est personne juridique qu'à la naissance. Je crois qu'on est personne du moment où commence un processus. Parce que je regrette, un petit embryon, ça ne fera jamais un petit chat. Ça fera toujours un humain. Donc, il faut bien reconnaître qu'on est en présence d'une vie humaine.
Dites-nous un peu vos champs de recherche.
Il y a l'autre extrémité, il y a le début de la vie, parlons alors de la fin de la vie. Et la fin de la vie, on le voit tous. Tous ceux qui naissent aujourd'hui ont à peu près une espérance de vie de 100 ans. On va être nombreux. Et puis, on va être vieux. Déjà aujourd'hui en Italie, l'âge moyen c'est 50 ans. Vous pensez dans 20 ans. Et on va tous vouloir donc faire ce qu'on faisait à 40 ans, alors qu'on a un corps de 80 ou 90 ans. Et on espère faire ça comment ? Grâce à la médecine. Alors allez-y la médecine, faites tout ce que vous voulez, vous avez carte blanche, parce que c'est une espèce d'utopie, c'est un rêve. Une santé parfaite pour 100 ans. Pourquoi pas pour 1000 ans d'ailleurs demain. Et c'est ça le risque, c'est qu'on croit qu'avec la médecine, on va avoir un beau corps, sain, et que donc on donne une carte blanche à cette médecine, et on ne s'aperçoit pas de tout ce qui se fait en coulisses.
Alors vous, qu'est-ce que vous dites Stéphane Boson, par rapport à ces défis ?
Bien, ces défis, c'est de croire que seule notre vie en bonne santé, en parfaite santé, est la chose qui est de la valeur. On oublie un peu l'esprit. Qui n'a jamais frôlé la mort ? Et à ce moment-là, sortant de cette crainte, c'est de dire « Ah bien, autour de moi, je me plaignais, mais finalement, elle est belle, ma vie. » Je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on oublie l'esprit pour le corps. On a aujourd'hui tous des désirs. On le sait, puisque la publicité, ça travaille sur nos désirs, qu'on appelle des rêves, mais bon. Ces désirs, il faudrait quand même faire attention parce qu'ils risquent parfois de devenir des pouvoirs sur autrui. Si je désire un enfant, je peux donc faire ce que je veux pour avoir un enfant. Si je désire être riche, pratiquement je peux faire tout ce que je veux. Et on le voit, c'est le désir d'une personne, mon petit désir. C'est Narcisse. On a autour de ce désir quoi ? Un désir surtout de sensations. C'est quoi ces sensations ? C'est des sensations surtout physiques. C'est le bien-être de celui plutôt, j'ai rien contre le club méditerranéen, je ne vais pas lui faire de la publicité, de celui qui se dit « Ah, j'ai bien mangé au banquet, je suis au bord de ma piscine, j'ai le soleil. » C'est ce type de désir qui est foncièrement charnel, mais dans le sens le plus plat. Et c'est pour sortir de cette abondance, quand on nous dit l'abondance du monde occidental, de richesse, de... Je pense que c'est bien entendu quoi. On a besoin de tout cela, mais il nous faut plus pour donner un sens. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi il y a autant de suicides, mettons, chez les jeunes, dans l'Occident. Notre vie, elle n'existe que comme une ouverture. On ne refuse pas la science, et attention, j'accepte et encourage la recherche scientifique. Mais on doit aimer dans le sens du partage, à savoir qu'on ne peut rien faire seul, on ne peut le faire qu'avec autrui, et pour l'autre, moi qui suis père de famille, le nombre de choses que j'ai pu faire, pas pour moi, mais pour mes enfants. Mais pas seulement pour mes enfants, mais pour leur avenir. Et leur avenir qu'ils auront avec des inconnus qui seront demain ma brume et d'autres petits-enfants. Donc c'est cette ouverture vers le futur. Et c'est ça, c'est la vie. Alors que quand on s'arrête trop sur un présent avec ses petites angoisses, on oublie, on se ferme.
Quel équilibre faut-il instaurer entre liberté de recherche et protection de la personne ?
Comme tout équilibre, il doit être fait chaque jour. C'est comme l'équilibre que l'on peut avoir dans sa famille, avec sa femme et ses enfants. C'est un équilibre délicat, mais qui ne repose que sur le bien de tous, mais dans le respect de chacun. Si je décide de faire un certain nombre de choses dans ma famille, je le fais pour toute la famille, mais dans le respect de chacun. C'est la même chose. Simplement, il y a un côté irréversible dans la science, parce que la science, elle nous donne des acquis qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Alors que quand on veut aimer, on repart toujours au début. En quelque sorte, la science va plus vite que nous, si vous préférez. Et si la science commence à aller très très vite, il n'y a qu'à songer aux dégâts qu'on fait, la pollution. Mais si on pense à demain, à des possibilités de modifier la vie par le génétique, à un point tel qu'on ne le contrôle pas, ça nous échappe.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire, pour terminer, Stéphane Boson, à nos auditeurs qui sont peut-être confrontés à ces problèmes que vous avez évoqués ? Le clonage, l'arrêt de la vie ou d'autres problèmes par rapport à la maladie et au respect de la vie.
Ce sera un appel à la prudence, de ne pas penser que la technique donne une réponse. Et ce serait un appel à la communication, de ne pas s'isoler dans leurs craintes, mais d'en parler avec leurs proches. Et je le pense souvent dans le cas de ce qu'on appelle le fin de vie, les grandes questions sur l'euthanasie, où les parents ont du mal à en parler avec leurs enfants, ou entre soit les autres, c'est-à-dire les collègues de bureau parfois, on ne veut surtout pas en parler de la mort. Parce que c'est une chose étonnante aujourd'hui. On ne veut plus parler de la mort. Donc n'ayons pas peur d'accepter notre finitude À partir de là, on comprendra que la médecine ne pourra pas nous assurer la vie infinie, et que plutôt dans notre finitude, ce n'est que en aimant et en partageant, et donc en communiquant, en n'hésitant jamais à parler, alors oui, là, vive les sensations, parlons de nos sensations, et ne pensons pas que la technique qui fiche tout, qui enferme tout, soit une réponse.